Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Il y a un peu plus de 10 ans apparaissait sur les écrans une jeune femme avec un bonnet bleu et entre les mains une guitare, un tambourin, des baguettes de batterie, avec une super intro à la guitare, une voix douce et un refrain en anglais qui allait s'inscrire dans les oreilles, dans les têtes et dans les cœurs. C'est ainsi, avec ce tube baptisé I Know, que le grand public découvrit Irma à l'aube du printemps 2011. Un père biologiste, une mère pharmacienne, elle a grandi à Douala avant de s'envoler vers Paris et de poursuivre de brillantes études. Lycée Stanislas, bac scientifique, mention très bien s'il vous plaît, jusqu'à la prestigieuse ESCP, grande école de commerce européenne s'il en est. Une tête bien faite donc, mais aussi une artiste accomplie qui s'est fait connaître par des vidéos YouTube et qui a tenu à emprunter la voie toujours incertaine du financement participatif pour sortir son premier album. Après une nomination aux Victoires de la Musique, quelques tournées et la sortie de 3 opus, la voici de retour avec un mini-album très personnel sur lequel elle affirme sa personnalité et sa singularité à travers sa musique entre pop, folk et influence camerounaise, sa voix soul et ses textes en français. On l'entend même rapper, figurez-vous. Douala Paris est disponible sous le label Azobé et vous m'en direz des nouvelles.
Je te presse assez fort, tu oublies les silences. Tes oui dire aussi mâche de l'heure, si jolie danse. On s'est blessé au front de la vie qu'on doit vivre. Enfermé dans ce corps dont l'étreinte nous délivre. Les mots durs n'auront plus d'effet sur toi. Les avis ne sont que l'exutoire des couards. Va-t'en mais reste un peu, va-t'en mais reviens vite, va-t'en loin de mes yeux, mon cœur battant connaît la suite. Va-t'en mais reste un peu, va-t'en mais reviens vite, va-t'en loin de mes yeux, mon cœur battant connaît la suite. Mais qu'il importe tout, je n'ai besoin de rien, non. Que le vent m'enlace sans m'emmêler à mes liens. À la source desséchée, j'ai réussi à boire. Je peux bien sans lumière réussir à y voir. Les mots durs n'auront plus d'effet sur toi. Les avis ne sont que l'exutoire des couards. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite.
Bonjour Irma.
Bonjour.
Commencer une interview par Va-t'en, on se dit que c'est un petit peu risqué quand même. vous me promettez de rester jusqu'au bout.
Je vous promets de rester.
Bon, en plus là vous ajoutez quand même Va-t'en mais reste un peu, Va-t'en mais reviens vite, on est donc un petit peu rassuré. Qui est-ce que vous vous adressez à travers ces mots, à travers cette chanson ?
Cette chanson, elle retranscrit un peu les mots que j'ai entendus en partant du Cameroun, de chez moi, quand j'avais 15 ans. Et c'était de manière symbolique une façon de montrer à quel point le fait de partir m'a finalement rapproché de ce pays. Parce que en fait, c'est ce que le manque a créé, c'est l'envie de retrouver mes racines, de mieux connaître mes racines aussi. Et c'est un peu ce que ça dit. C'est-à-dire, va faire ta vie et puis reviens quand même.
Voilà, va faire ta vie, tente ta chance. Ouais. Réussis et reviens, et surtout ne nous oublie pas. Quoi.
Voilà.
Alors le clip est absolument magnifique et c'est effectivement vos racines que l'on découvre aussi à travers ces images. Un clip très ancré effectivement de la culture camerounaise. On le voit à votre maquillage, au collier de Corrie magnifique, au tissu, à la nature aussi, les éléphants, la forêt, le mont Cameroun.
Oui.
Hein, évidemment très important, vous l'avez tourné du côté de Douala.
Du côté de Douala et ce qui a été chouette c'était aussi que l'équipe avec laquelle j'ai bossé est reconstituée finalement des paysages même typiques de l'ouest du Cameroun d'où je suis originaire. Donc on a vraiment à un moment donné la terre rouge comme ça de Banganté et c'était vraiment très important pour moi de, ouais. de montrer cette image-là de, ouais. de mon, du Cameroun.
Ouais, une sacrée invitation au voyage, je vous garantis, il faut vraiment aller voir le clip si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis on a entendu aussi les paroles, là, Irma. À la source desséchée, j'ai réussi à boire. La source, elle est au Cameroun ? La source, elle est à Douala ?
La source, elle est à Douala, mais elle est aussi, je pense, dans moi. Et c'était vraiment, cette EP et puis cette chanson, c'était un retour à l'intérieur de moi aussi, une introspection. Et de voir que même dans les moments les plus difficiles, finalement... voilà, on arrive à pouvoir se reconnecter et se réentendre quand on fait le vide autour de soi.
Parce que vous avez vécu des moments difficiles ?
Je pense que comme tout le monde, il y a des périodes de la vie où on se pose beaucoup de questions, où on se demande le sens de ce qu'on fait déjà, on se demande quelle est son identité. Et moi, pour ma part, j'ai une multiculturalité, une africanité, une occidentalité, et tout ça qui se chamaille un peu dans moi depuis que je suis toute petite. Et l'idée, c'était de les réconcilier avec cette EP.
Oui, parce que l'EP s'appelle Douala Paris. Est-ce que ça veut dire que c'est un disque de l'aller-retour, un disque de l'entre-deux ?
C'est un disque surtout de la réconciliation, comme je disais. Et c'est vraiment, pour moi, important de réaliser aujourd'hui qu'on n'est jamais l'un ou l'autre. C'est jamais noir ou blanc.
C'est vrai que c'est une chanson que vous avez écrite, Douala Paris, dans l'avion ?
Dans l'avion, exactement. Parce que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup d'allers-retours Douala Paris. Et c'est vraiment une chanson que j'ai non seulement écrite commencé en tout cas à écrire dans l'avion, et que j'ai beaucoup travaillé, notamment l'instru, dans l'avion.
Eh bien, on écoute.
We like to think we have some form of control still. Making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly.
À 5000 bornes plus haut. Après le sable et après l'eau. Brillaient mes rêves les plus beaux. À 5000 bornes. De trop. À 5000 bornes d'ignorance, de guerre et de silence. J'ai cru pouvoir saisir ma chance à 5000 bornes de mon enfant.
Douala, à quoi ou troca, ici ou là-bas, c'est où, chez toi, la scène de Voiry, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Béti ou Bami, ma chambre ou la scène, la joie ou la reine, le roi ou la reine, la foi ou les chaînes, mes peurs ou mes rêves, les corps sous la sève, je me cache, je me lève, je marche ou je crève, je saisis ma chance, j'arrête de penser, mes plaies sont pensées, j'avance en pensée, défrise ta crinière, sors de ta tanière, tu gagnes ou tu perds, sucré ou amer, dis pas ton histoire, du blanc dans ton noir, incarne mon regard, faut que tu plaises à tous mes gars, la voix de la bête, de toi dans ma tête, je me noie ou je m'arrête, de finir la fête, ADN oxydé, occident à tuer, par jour ou parler, partir ou rester, chanson ou pora, guitare ou cora. T'es qui, tu fais quoi, t'es qui, moi je te comprends pas. Même au même combat, ici ou là-bas, face B, face A, tu m'aimes, 33. Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est où, chez toi, la scène de Voiry, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Béti ou Bami. Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est où, chez toi, la scène de Voiry, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Béti ou Bami. Le bisou, l'Asie, l'Occident ou l'Afrique, les claques ou ta clique, dis c'est qui ta clique, c'est où ta maison, montre-moi ton blason, dis-moi pour de bon, t'es un coq ou un lion. Télé ou un dé, à poil ou caché, c'est quoi ton côté, choisis ta moitié, solo ou corpo, silence ou radio, beauté ou vêtement. Pas mes héros. Tu veux me cerner, me caler, découper. Y'a tes cases et tes codes, et puis y'a moi à côté. Tes yeux, ma prison. Tes mots, mes chansons. Mon corps, ma maison. Et toi, une raison. Je suis sûr et j'ai peur. Je ris comme je pleure. La nuit, la lueur, l'amour et la rancœur. Armée de ma blessure, je doute et j'assure. D'où c'est mon arme, je crie, je murmure.
Étranger, à Paris, à Douala. À trop choisir, je me suis blessée. Ma vraie raison, c'est moi. Tout m'est devenu étranger. Choisir, je me suis blessée. Ma vraie maison, c'est moi.
Paris ou Douala, à quoi autre cas, ici ou là-bas, c'est quoi ton chez-toi, la scène de Vori, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa, ou Béti ou Bami, Pentikin ou Java, Java Makosa, Pal ou Bendeka, Nouvelle ou Troca, BH ou Baba, Baguette ou Senga.
Mon camp, c'est moi. C'est la conclusion de cette chanson Douala Paris qui donne son titre à votre nouvel album. Irma, ça a été dur de choisir votre camp. Ça a été dur d'être vous-même, tout simplement, en fait.
C'est ça, tout simplement. En fait, de justement me décider à ce qu'il ne fallait pas choisir, qu'il fallait juste être moi avec toutes ces richesses-là. Et tout ce que j'avais appris, tout ça, c'était moi, en fait.
Oui, parce que ce qui est frappant quand on écoute les paroles, c'est la dualité permanente hein, dans cette chanson. Je crois que le mot que vous utilisez le plus dans ce texte, c'est le mot « ou ».
Oui.
O-U. Donc, il n'y a que deux lettres. Mais mine de rien, ces deux petites lettres-là, on a l'impression qu'elles peuvent peser extrêmement lourd.
Extrêmement lourd. Et c'est ça, cette chanson, c'est vraiment, non seulement déjà musicalement, une espèce de volonté de montrer que je n'ai pas envie de répondre à cette injonction de choisir un choix, d'ailleurs que ce soit musical, que ce soit dans mon apparence, que ce soit dans quoi que ce soit. Et au-delà de ça, il y a vraiment, c'est ça, cette espèce d'injonction au choix perpétuellement. Il faut choisir son camp, quoi. Faut choisir son camp. Et moi, je ne suis pas en guerre du tout.
Oui, et ça, vous l'avez ressenti partout, aussi bien au Cameroun qu'en France ou ailleurs.
Exactement. Je me suis toujours sentie chez moi. Partout.
Donc voilà, on peut donc être cora et guitare sèche,
oui.
Piano classique et guitare électrique,
exactement.
Pop et folk, folk et rap. C'est la première fois que vous rappez là ?
C'est la première fois que je rappe dans un des titres que j'ai sortis, mais ça fait un moment que je me disais, il faut que je sorte un titre.
Et là, le moment est venu.
Voilà,
le moment est venu. C'était un défi pour vous ? Comment vous l'avez ressenti ?
Bah, c'est ça, en fait, cet album, cette EP m'a permis de me rapprocher de moi le plus possible. Et pour moi, c'était justement accepter toutes ces facettes-là que j'ai toujours explorées sans forcément... Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que le choix... et cette injonction de choix, on finit par se le mettre soi-même. On finit par se la mettre soi-même. C'est-à-dire que c'est plus les autres qui nous demandent, qui nous mettent face à ça, c'est nous-mêmes. Et donc pour moi, c'était une manière de me libérer des injonctions que je me mettais aussi.
Alors on va jouer un petit peu, Irma. On va jouer à l'un ou l'autre,
oui.
Mais vous avez le droit de répondre les deux.
Ok.
D'accord. Thé ou café ?
Café.
Ben Harper ou Michael Jackson ?
Michael.
Pourquoi ?
C'est Michael Jackson, c'est la personne qui m'a donné envie de faire de la musique.
Tracy Chapman ou Eric Clapton ?
Ah, c'est les deux.
Les deux. Ok. Étrangère partout ou partout chez vous ?
Les deux.
Plutôt du matin ou plutôt du soir ?
Plutôt du matin.
Dolé ou poulet DG ?
Oh là là, c'est dur, les deux.
Les deux, vous en étiez sûr.
C'est dur.
Bon, pour la musique sur cet album, instrument de musique ou ustensile de cuisine ?
Les deux.
Les deux. Quels ustensiles de cuisine ?
Des salières, notamment, des cuillères sur des verres. Et tout ce qui me passait par la main.
Oui. Alors, tout est bon, en fait,
des
pour
clés,
faire de la
mais qui n'étaient pas un ustensile de cuisine, mais des clés aussi. Ouais.
Des clés aussi. Ouais. Pour chanter en français ou en anglais ?
Les deux.
Les deux. Pourquoi est-ce que vous avez attendu autant pour oser le français ?
Alors, pour moi, c'était... L'anglais était assez intuitif, parce que c'est comme ça que j'ai appris la musique. Et les artistes qui m'ont souvent inspiré, Laurie Neal, Michael Jackson, etc., étaient souvent anglo-saxons. Donc, c'était ma langue musicale. Et en fait, le français, ça participe juste de ce que je vous disais, c'est-à-dire vraiment un rapprochement de la source, quoi, de la racine. Et puis, pour moi, c'était assez évident que ça allait passer par le français aussi.
À force de complaintes et de trop de grisailles, de la liste de mes craintes aux raisons de mes failles. J'ai cru que dans le champ où je sème le gravier, c'était de belles fleurs que j'allais récolter. En déterrant le pire, j'en frôlais les racines. Les joies ne s'arrosent pas de sentiments acides. L'esprit est un jardin, donc si tu le piétines, ne t'étonne pas d'y trouver des épines. Raconte-moi tes souvenirs pour qu'ils deviennent les miens. Oublie qu'il y a hier tant que je te cajole. Je calmerai ton cœur aussi. Jamais il s'affole d'elle. Plus beaux souvenirs, on les fera demain. Fallait-il un déluge ?
Irma, notre invitée aujourd'hui dans VMDN, une vraie chanson à texte en français. Écrire en français, écrire en anglais, ça n'a rien à voir ou c'est la même chose?
Ça n'a rien à voir. Pour le français, les textes, autant pour l'anglais, ils viennent assez intuitivement. Pour le français, j'avais vraiment des grosses sessions de travail de texte.
Oui, c'est-à-dire que vous avez beaucoup raturé, beaucoup réécrit.
Reprend, voilà.
Oui, et le travail de la voix, alors pour le chant, cette fois-ci, d'une langue à l'autre, là aussi
Là encore, ce n'est pas la même intention, mais les deux me venaient assez naturellement. Je n'ai pas trop réfléchi pour poser ma voix en français. Mais en tout cas, de dire les textes en français, ça m'a fait une émotion particulière parce qu'effectivement, j'étais plus proche de ce que je disais.
Un jour, des chansons complètes en Bamoun, en Bakoko, en Aoussa,
en
Poufoulde.
Bien sûr, c'est ce qui se profile, clairement.
C'est ce qui se profile, très clairement. C'est l'étape, c'est l'étape suivante, on est d'accord.
Exactement.
Bon, styles musicaux très variés, d'un titre à l'autre aussi. On a vraiment parfois l'impression, à l'intérieur d'une même chanson, de changer complètement d'atmosphère. Mais l'empreinte folk est quand même la plus forte. Vous êtes d'abord une raconteuse d'histoire, Irma.
Oui, vraiment. Je pense que je pourrais monter, descendre, aller dans tous les sens. En fait, la folk sera toujours au centre de ma musique. Et je pense que j'ai besoin de ce côté organique de la musique, c'est-à-dire que vraiment la guitare, les vrais instruments, les vraies sonorités, même quand j'utilise finalement des boîtes à rythme, c'est souvent des boîtes à rythme analogiques qui ramènent cette poussière-là. Je trouve que c'est...
Oui, il y a besoin d'une patine.
Oui, il y a besoin d'une faille, comme on dit.
Il y a besoin d'une faille, vous voyez, comme quoi, c'est le titre de la chanson qu'on vient d'écouter. Alors, vous parlez beaucoup d'amour sur ce disque, dans la dernière chanson qui s'appelle 2 degrés, dans une autre chanson qui s'appelle Reine. L'inspiration, elle vient de vous, elle vient de votre parcours, de votre vie quotidienne, des gens qui vous entourent. Comment ça se passe? C'est quoi le point de départ?
Je pense que les relations humaines et les relations, tout ce qu'on regarde à l'extérieur de nous est une relation. On a une relation avec les choses et les gens. Et je pense qu'on se comprend jamais mieux que quand on se regarde au travers de l'autre. Et pour moi, c'est pour ça que le sujet de l'amour et le sujet de la relation en général sera toujours au centre de tout. C'est parce qu'on se connaît jamais mieux que dans l'œil de l'autre, quoi.
Merci. Merci beaucoup, Irma. Douala Paris, votre nouvel EP chez Azobé Production. Azobé, c'est un bois très
c'est
résistant.
C'est un bois très résistant,
très résistant,
bien
résistant
sûr.
Du Cameroun. Irma en concert le 31 juillet à Lyon, au Théâtre Romain de Fourvière. Allez, allons danser.
Merci.
À l'amour qui divague et qui voit tout. À celui qui, comme la vague, fait des remous. À mon cœur lourd comme la grêle quand je faiblis. À mes songes qui s'en mêlent comme la pluie. J'ai peur de rien,
mais peur de tout. Je suis sûre de rien, mais folle de nous. Rien ne s'efface si j'oublie tout. Et quand on danse, tout est doux, tout est beau comme ce silence. Tout est doux et plus rien n'a d'importance. Et quand on danse, tout est doux, tout est beau comme ce silence. Tout est doux et plus rien n'a d'importance. À l'amour que tu offres, à mes fissures, à ton ombre qui m'étoffe et me rassure. Qui nous sème, à l'amour qui guérit, qu'on a pour soi-même. J'ai peur de rien, mais peur de tout. Je suis sûre de rien, mais folle de nous. Rien ne s'efface si j'oublie tout. Et quand on danse, tout est doux, tout est beau comme ce silence. Tout est doux et plus rien n'a d'importance. Et quand on danse, tout est doux, tout est beau comme ce silence. Tout est doux et plus rien n'a d'importance. Et quand on danse, tout est doux, tout est beau comme ce silence. Tout est doux et plus rien n'a d'importance.
Danse Irma dans VMDN.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Elles sont femmes, elles ont du caractère et du talent, elles sont journalistes, donc intéressées par le social, elles sont jeunes et d'autant plus sensibles aux questions écologiques. Elles ont donc toutes les chances d'être appelées par Emmanuel Macron ce week-end et qui sait peut-être devenir première ministre. Amélie Beaucourt et Fanny Blechner sont avec nous. Bonjour mesdames.
Bonjour,
bonjour Jean-François. On a toutes nos chances.
Bon, vérifiez bien votre portable en sortant du studio. On ne sait jamais. Bonjour aussi à vous Edmond.
Bonjour Jean-François.
Bon, c'est peut-être pas complètement loupé parce qu'il peut aussi choisir un homme finalement.
On n'en sait rien.
Il aime surprendre Emmanuel Macron paraît-il. Le ministère de la Culture, peut-être, à défaut, Edmond ?
Écoutez, je vais réfléchir. Je vous dirai ça dès que j'aurai des détails.
Bon, on va suivre le dossier. En tout cas, la musique, on sait que c'est ce qui vous intéresse beaucoup, Edmond. De qui allez-vous vous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler d'un batteur, d'un grand batteur français. Il s'appelle Jean-Philippe Fanfan. On le connaît depuis longtemps. Il accompagne de grands artistes, des stars. Et là, avec son quintet, il a fait un disque. Et il sera ce soir à Paris, au Baiser Salé. C'est un club de jazz parisien.
On connaissait le fameux « Ceci n'est pas une pipe » de Magritte, mais une autre désillusion, sans parler du poste de Premier ministre, vous êtes en panique.
Oui. « Ceci n'est pas un corps », c'est le titre de l'exposition que je suis allée voir à Lyon, à la Sucrière. Je peux vous assurer qu'on s'y tromperait, une femme âgée, un couple enlacé, un immense nouveau-né, à qui il ne lui manque que la voix. En fait, autant de sculptures à découvrir pour avoir un aperçu de ce qu'est l'hyperréalisme.
Mais pour commencer, on va regarder dans le rétroviseur. Nous sommes en 1511, sur le territoire de l'actuel Mexique, en Amérique centrale bien sûr, et sur les planches de la BD que vous avez entre les mains, Amélie, enfin presque, vous avez oublié.
Je l'ai oublié au bureau.
Mais voilà, donc sur les planches de cette bande dessinée, il y a une jeune fille d'une dizaine d'années qui s'appelle Malinali. Elle est perchée dans un arbre, elle est cachée avec sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur. Les femmes chuchotent en Popoluca, l'un des nombreux dialectes qui comportent composait à l'époque la mosaïque culturelle de ce territoire. Et ce jour-là, Amélie...
Un dialecte que vous parlez, Jean-François, ah ben, j'en suis sûre.
Oui, absolument. De A jusqu'à Z. Je ne sais même pas si elle est la même lettre, d'ailleurs. Mais bon,
et ce jour-là, les Mexicas, appelés aussi les Aztèques, débarquent et emportent avec eux des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants du village qui leur serviront pour leur sacrifice. Alors, c'est monnaie courante à l'époque. Les Aztèques, ce sont eux qui dominent la région. Ils sont vus comme des barbares et personne ne comprend leur langue. Donc, difficile de négocier avec eux. Personne, à part le chef du village qui va transmettre le Nahuatl, donc c'est la langue des Aztèques, à sa fille, Malinali, pour qu'elle puisse porter plus tard à sa place la parole de son peuple. Mais Malinali va être vendue comme esclave à son tour à des Mayas qui parlent une autre langue qu'elle ne comprend pas du tout. Ça valait le coup de se farcir le Nahuatl. Plus tard, elle sera revendue à nouveau aux Espagnols, dont elle ne parle pas la langue non plus, guidée par Hernán Cortés, qui viennent donc de débarquer sur le continent à la recherche de l'or. Cette histoire, c'est donc celle de la Malinché, celle qui parle parce que son parcours douloureux l'a amenée à apprendre toutes les langues dont les conquistadors avaient besoin pour parvenir à leur fin, et en s'alliant avec eux, volontairement ou non, elle va devenir la pièce maîtresse de la colonisation du Mexique. Cette histoire, Alicia Jaraba, qui parle elle-même plusieurs langues, la découvre lors d'un voyage au Costa Rica.
Alors j'avais acheté un roman qui s'appelait Malinche de Jane Lewis Brandt, une écrivaine des États-Unis. Et j'avais beaucoup aimé le personnage, mais c'est vrai qu'elle était un peu présentée comme... c'était un peu Disney. Elle était très amoureuse de Cortés. Elle aidait les Espagnols sans se poser des questions presque. C'est un personnage très complexe et très polémique, donc il y a plusieurs versions de la Malinche. J'ai trouvé des Malinches rebelles envers les Espagnols, des Malinches rebelles envers les indigènes, des Malinches hyper amoureuses de Cortés qui étaient à fond avec les Espagnols. J'ai trouvé un peu de tout.
Tout est donc à inventer ou presque. Alors pour son premier scénario, d'habitude elle ne fait que dessiner, Alicia Jaraba, eh bien elle a donné à sa Malinché le caractère d'une héroïne intrépide du 21e siècle, mais aussi têtue, loin de la petite fille parfaite sortie d'un conte de fées, mais peut-être pas si éloignée de la vraie Malinché.
On ne pourra jamais savoir vraiment comment était le caractère de la vraie Malinche, mais ma Malinche à moi, elle est, je dirais qu'au fur et à mesure que le récit avance, elle va se trouver elle-même. Donc au début, elle est, on va dire, immature, on peut dire ça, mais un peu prétentieuse aussi. Après, elle va tomber dans l'esclavage, donc ça va beaucoup la changer, la faire mûrir. Et donc, à la fin, elle va trouver sa sécurité et son rôle. Donc, je pourrais dire surtout qu'elle est un peu décidée et intelligente. Et elle va utiliser sa connaissance des langues pour s'affranchir.
Alors, en parlant de langue, Amélie, est-ce qu'il faut savoir lire le nahuatl, le maya ou l'espagnol pour lire et comprendre cette BD ?
Non, heureusement que non, Jean-François. Heureusement pour vous, d'ailleurs, même l'anglais n'est pas requis. Mais, et puis, comme vous l'avez entendu, Alicia Jaraba parle très bien français et écrit donc très bien français aussi. Et ce qui est super bien fait dans la bande dessinée, c'est que lorsque quelqu'un parle une langue étrangère à Malinali, eh bien, les bulles sont brouillées ou remplies avec des caractères incompréhensible, donc on a des planches entières de dialogue que le lecteur, comme Malinali, ne comprend pas, et donc on est complètement perdu.
D'accord, alors physiquement maintenant, Amélie, à quoi ressemble cette Malinché ?
Eh bien, Alicia Jaraba a pu se permettre de prendre une liberté totale pour créer son personnage. Elle l'a choisi avec de longs cheveux bruns, de grands yeux expressifs et un nez puissant. Il fallait que les traits soient bien sûr cohérents avec les origines du personnage.
Les Aztèques dessinaient quelque chose qui s'appelle des codex. Et c'était pour raconter des événements qui étaient arrivés dans leur histoire. Les indigènes de Tlaxcala avaient dessiné un codex qui s'appelle « Lienzo de Tlaxcala » où ils racontaient la conquête. Et là, il y avait la Malinche représentée. Mais il faut dire que c'était fait 20-30 ans après la conquête, donc elle n'était même plus vivante. Et je ne sais pas si ceux qui l'ont dessinée l'ont connue. Donc ce n'est pas véras. Et il y a aussi d'autres codex où elle est représentée, mais on ne peut pas faire confiance parce que dans l'un d'entre ces codex, elle est blonde. C'est pas possible.
Alors, autre chose qui vous a marqué, Amélie, dans cet album, ce sont les autres personnages féminins.
Oui, à l'exception de son père qui lui a un peu sauvé la vie en lui apprenant la langue du conquérant, ce sont surtout des femmes qui ont joué un rôle, à commencer par sa grand-mère qui lui apprend les vertus des plantes médicinales, par exemple, ou encore cette femme blanche venue avec les colons espagnols qui va devenir son amie parce que, eh bien, comme la Malinché, elles sont femmes et même si elles sont toujours sous le joug des hommes dans l'album, tous les personnages féminins, elles tiennent la sororité en haute estime et c'est d'ailleurs à travers un rituel on ne peut plus féminin qu'elles se rencontrent.
Elles font connaissance alors qu'elles lavent dans la rivière des linges avec du sang, des règles, donc ce n'est pas par hasard. Et en fait, c'est un ami à moi qui m'a donné cette idée parce que je voulais qu'elles fassent connaissance en faisant quelque chose de féminin, mais je ne savais pas exactement quoi. Et il y a un ami qui m'a dit « Ah, ben, tu peux faire ça ». Et c'était super comme idée. Donc merci Roy, merci.
Et pour finir sur une petite anecdote, on apprend aussi dans cet album que les Mayas étaient, tenez-vous bien, de bien meilleurs partenaires sexuels que les Espagnols.
Alors j'avais lu un traité sur la sexualité maya et j'avais appris qu'en fait c'était assez développé, on va dire. Bien sûr, en Espagne, il y avait la religion qui s'imposait sur le sexe et tout ça. Mais par contre, les Mayas avaient une sexualité assez développée et il y a beaucoup de dessins érotiques de l'époque, Mayas et tout, c'était quelque chose d'important. Et j'avais lu qu'ils se préoccupaient par le plaisir des femmes aussi.
Voilà, celle qui parle, bande dessinée d'Alicia Jaraba, parue chez Grand Angle, Amélie. Et pour finir en beauté, vous allez nous proposer quelques mots de Nahuatl quand même.
Oui, avec la version nahuatl de la chanson populaire espagnole La Llorona. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson ou cette légende.
Non.
La Llorona, c'est ce fantôme féminin du folklore mexicain dont on entend parfois les longues plaintes. Et comme la Malinche, c'est une grande figure féminine devenue une légende, mais dont on ignore la véritable histoire. Voici donc sa version dans la voix de Naupa Machu.
La Llorona Chocani dans le Café Gourmand de VMDM. Plastic People, c'est presque votre sujet du jour, Fanny. Des hommes et des femmes en plastique.
Oui, des sculptures très très proches de la réalité. L'exposition se tient en ce moment à Lyon, à la Sucrière. Elle est intitulée « Ceci n'est pas un corps » et les organisateurs ont bien fait de le spécifier. Il faut dire que cette exposition, elle s'intéresse à l'hyper-réalisme. Ouais. Je pense que le nom du mouvement est assez parlant. On est donc dans la recherche de la représentation au plus vrai. Je laisse en revanche Léa Ranger, chef de projet chez Tempora, qui organise cette exposition, nous expliquer comment ce mouvement est né.
En fait, la grande révolution du XXe siècle dans l'histoire de l'art, c'est la naissance de l'abstraction. Jusque-là, on représentait tout de manière très figurative. Sauf que dans les années 60, aux États-Unis, en réaction à l'expressionnisme abstrait, aux peintures de, par exemple, de Jackson Pollock, des artistes ont voulu retourner à une représentation réaliste et figurative. Et donc, ils ont poussé jusqu'au bout cette notion de réalisme. Ça se fait en fait en parallèle avec le pop art en même temps, à la même époque, dans les années 60. Par exemple, ce qu'on connaît très bien, c'est la Supermarket Lady de Dwan Hanson. Dwan Hanson qui est hyper réaliste et on utilise souvent l'exemple de la Supermarket Lady pour montrer voilà, la représentation de la société de consommation comme l'ont fait les pop artistes.
Alors moi, personnellement, je ne connaissais pas le nom de ce mouvement, mais effectivement, cette Supermarket Lady, personnellement, elle apparaissait dans mon livre d'histoire au collège, pour être précise.
C'est une femme avec un énorme caddie, c'est ça?
Exactement, avec des bigoudis dans les cheveux. Et voilà, un chariot rempli de victuailles.
Oui, parce qu'il y a cette volonté dans l'hyperréalisme de représenter des scènes, des personnes dans leur quotidien.
Oui, on est loin des statues historiques avec cet artiste.
Dwan Hanson, un des pionniers du mouvement, avait vraiment envie d'avoir un message social, disons, dans son travail. Et donc, il a représenté deux ouvriers d'un musée qui se trouve à Beaune, le musée de l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. En fait, il a pris le concierge et un ouvrier, il a moulé leur corps. Cet ouvrier et le concierge ont donné même des bouts de cheveux, des poils, ils ont donné leurs vêtements. Et en fait, l'œuvre qu'on voit, c'est la reproduction fidèle, même avec les accessoires des vraies personnes, etc., pour montrer aussi que dans le musée peuvent être exposés des gens qu'on ne voit pas, qui travaillent dans le musée. Et donc, il y a un vrai message social derrière.
Et donc, au début, la technique, elle est assez rudimentaire.
Oui, mais elle va évoluer au fil des décennies pour aboutir à un résultat de plus en plus près du réel.
Genre, ces gars utilisaient des gaz de plâtre qu'il enduisait. Et ensuite, John DeAndrea et Dwayne Hanson ont coulé en bronze, en fait, les moulages qu'ils faisaient des corps. Ils viennent ensuite ajouter de la peinture, des accessoires pour rendre vraiment l'illusion de la réalité. Et puis, avec le temps, la technique a évolué, notamment grâce à l'industrie du cinéma. On a beaucoup d'artistes dans l'exposition qui viennent du monde du cinéma, qui sont, par exemple, maquilleurs, prothésistes. Et donc, ils utilisent plutôt du silicone, de la résine. Et en fait, là, on a encore un autre degré supplémentaire de réalité, puisque le silicone, c'est vraiment plus proche de la peau que le bronze peint.
Et la question qu'on peut se poser, Fanny, c'est quand même jusqu'où va cet hyperréalisme ? Quel intérêt, finalement, de copier à la perfection ce qui existe déjà ?
Ça donne quand même des résultats assez troublants, comme ce couple nu, enlacé, à genoux l'un face à l'autre. Une œuvre de l'artiste d'origine serbe, Marc Sijan. On a l'impression de saisir un moment d'intimité, c'est assez émouvant. Et puis, évidemment, cette sculpture de l'Australien Sam Jinks, celle qui fait l'affiche de l'exposition. Une femme âgée, cheveux blancs, robe blanche, tenant contre elle un nouveau-né. On s'attend presque à les voir bouger, respirer. Il s'en dégage une certaine poésie, une certaine vulnérabilité. D'autant que l'échelle, elle n'est pas à taille réelle, ils sont légèrement plus petit que nous.
Et vous m'avez aussi parlé d'un autre bébé légèrement plus grand, celui-ci.
Oui, dans une autre partie de l'exposition, un immense bébé un peu terrifiant que nous décrit Léa Ranger.
C'est vraiment une des pièces maîtresses de l'exposition. Il fait 5 mètres de long et il nous confronte en fait à ce qu'on ne voit pas en fait dans la naissance d'un enfant qui est tout petit, fragile, on voit toute la beauté de l'événement. En fait, là, il en fait quelque chose de complètement monstrueux, par les dimensions, par les petites coulées de sang qu'il y a sur le corps, par le visage complètement enfermé du bébé, qui est encore traumatisé, en fait, par l'acte de la naissance. Donc, il pose un autre regard sur la naissance, de par ces jeux de taille, en fait. Alors, à l'inverse, il peut aussi représenter des tout petits personnages. Mais voilà, souvent, c'est les sculptures surdimensionnées qui surprennent le plus le visiteur.
Et c'est aussi ça qui est intéressant dans l'hyperréalisme. On est certes bluffé par les techniques, comme les petites gouttes d'eau sur le visage des nageuses de l'américaine Carol Feuerman. Mais surtout, ces artistes, ils nous offrent leur regard sur la réalité ou bien sur eux-mêmes, comme le Danois Peter Land, représenté au sol comme un sans-abri, ses pieds dépassant d'un immense tunnel de carton, ou encore les sortes de tableaux en relief de l'Italien Walter Adam Casotto.
On a le fragment de son coude, le fragment de sa bouche, le fragment d'un de ses doigts. Et en fait, à travers ces fragments, déjà, ils se représentent. Ils sont représentés de manière surdimensionnée. Il a tatoué dessus ses dessins d'enfants. Et donc, lui, il essayait de parler à la fois de la réconciliation de son enfance à travers les dessins d'enfants qu'il a tatoué dessus et de son corps d'être humain. Donc, montrer un peu le passage du temps. Pareil, il y a une énorme main dans la partie jeu d'échelle qui est toujours par le même artiste et qui représente la main de sa grand-mère, qui est aussi moyen de parler de l'histoire de son pays. Enfin, il y a toujours un peu, effectivement, de l'histoire de chaque artiste dans le traitement des œuvres. Et ça passe aussi par est-ce qu'on traite par le fragment notre œuvre, est-ce qu'on la surdimensionne, etc.
Et alors vous, Fanny, comment est-ce que vous avez ressenti cette visite d'exposition ?
J'ai ressenti de l'émotion, bien sûr, mais parfois aussi un certain trouble. J'ai par exemple patienté bêtement quelques instants derrière une jeune fille qui semblait regarder quelque chose à travers le mur. En fait, c'était une sculpture intitulée « Caroline, les coudes posés contre le mur ouais. », une sculpture du français Daniel Fermann. J'ai pas été la seule à me laisser prendre au jeu. L'exposition, elle joue justement sur cette frontière.
On avait fait, nous, quelques vidéos de communication où on avait mis des membres de notre équipe dans l'exposition. Enfin, on était tous immobiles et le jeu, c'était de deviner qui étaient les vraies personnes qui étaient les œuvres d'art. Et en fait, on s'y trompe et on a même des visiteurs qui nous ont dit, notamment avec les visites nues qu'on a organisées, que certaines fois, ils se sont trompés parce qu'il y avait un visiteur nu qui regardait une autre œuvre nue, notamment dans la première section. Et un autre visiteur a regardé pendant plusieurs minutes cette autre personne et s'est rendu compte à bout de quelques minutes quand elle a bougé qu'en fait c'était pas une statue mais c'était une vraie personne. Donc on est toujours un petit peu troublé. Et vous avez raison de rappeler aussi que l'interactivité avec le visiteur intervient à certains moments de l'exposition, notamment à la fin où on pose la question aussi du visiteur en tant que partie prenante de l'œuvre, parce qu'il y a une œuvre d'Erwin Wurm où il peut prendre la chaise, la mettre d'une certaine manière, faire une pause pendant une minute, et il devient lui-même sculpture.
Ah oui, quand même.
Oui, donc vous avez bien entendu, oui. Hein, il y a eu des visites nues de l'exposition.
C'est quand ?
Alors,
il y en aura d'autres ?
Il va y en avoir d'autres, justement, parce qu'il y a eu tellement de monde pour ces premières visites que d'autres vont être organisées à bon entendeur.
Donc, d'accord, donc Amélie va suivre ça de très très près. En tout cas, pour la visite plus classique, rendez-vous donc à la Sucrière à Lyon, bien sûr, jusqu'au 6 juin. L'exposition s'intitule « Ceci n'est pas un corps » et vous pourrez la retrouver après l'été à Paris, cette fois-ci. Vous passez par la capitale française au musée Mayol. Rendez-vous à partir du 8 septembre. Merci Fanny. C'est le batteur français Jean-Philippe Fanfan dont on entend la musique, dont vous allez donc nous parler aujourd'hui, Edmond, avec son quintet. Il sera à l'affiche ce soir d'un célèbre club de jazz parisien, le Baiser Salé, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Les Caribéennes. C'est un musicien qui est un des instrumentistes les plus demandés en France lorsqu'il s'agit d'accompagner des artistes, que ce soit en studio ou sur scène.
Absolument, il a accompagné beaucoup de vedettes, de stars connues internationales comme Sting ou Supertramp, et puis en France, beaucoup d'artistes très renommés depuis longtemps. Je citerai par exemple Julien Clerc, qui l'accompagne d'ailleurs en ce moment en tournée. Il y a aussi Bernard Lavilliers, Louis Bertignac, entre autres, il y a des dizaines d'autres artistes. Et donc, après avoir fait ce métier d'accompagnateur pendant très longtemps, de sideman, comme on dit, eh bien, il s'est lancé dans l'expérience du disque solo. Il a franchi le pas de ce disque solo en sortant un disque tout récemment, un disque qui s'appelle Since 1966. Donc, depuis 1966, il s'en explique.
Pendant des années, on m'appelait pour faire une session. On me dit, bon voilà, il faut que tu joues comme ça, ça va dans telle direction. Là, cette fois-ci, c'est moi qui donnais les directions où j'avais vraiment des idées précises pour cet album-là. Donc, c'était une nouvelle casquette, mais ça ne m'a pas déplu.
Et cette date, 1966, Edmond, eh bien, elle correspond tout simplement à son année de naissance, Jean-Philippe Fanfan, puisque son amour de la musique, eh bien, il le tient depuis le plus jeune âge. Et il vous a expliqué pourquoi.
J'ai la chance de grandir dans une famille de musiciens. Mes parents étaient musiciens, mes oncles, mes grands-parents. Enfin, voilà, on a baigné dans la musique. Donc, j'étais imprégné de toute cette culture, cette musique, ces rythmes. Et j'ai voulu un petit peu retranscrire tout ça dans cet album.
Et sur cet album, très influencé par le jazz caribéen, eh bien, ce batteur, ce musicien nous emmène faire une sorte de tour du monde musical.
C'est un album au départ qui est un petit peu jazz caribéen, mais il n'est pas que jazz caribéen. C'est-à-dire que j'ai tellement cette culture déjà ancrée complètement dans la Guadeloupe. Mais le fait d'avoir voyagé dans le monde entier, d'avoir joué avec énormément de gens, ça m'a forgé une espèce d'identité, de personnalité. J'ai voulu faire un album déjà musicalement qui me ressemble avec toutes mes influences.
Et ces influences, elles sont notamment africaines. On le découvre d'ailleurs dès le premier morceau de ce disque, un morceau très influencé par l'Afrique de l'Ouest, puisque ce morceau s'appelle Canary Conakry. On y entend notamment la chanteuse ivoirienne Oliza Zamati.
Il a une histoire, ce titre-là, c'est parce que quand j'ai commencé la musique, en dehors de ma famille, j'avais une vingtaine d'années, je jouais avec Touré Kounda, le groupe Touré Kounda, et il y avait un percussionniste de la Guinée-Conakry qui on s'amusait pendant les balances à échanger nos rythmes. Il faisait un rythme, je lui dis « Ah non, ça c'est un rythme de la Guadeloupe ». Il me dit « Ah non, non, c'est la Guinée-Conakry ». Et moi, je faisais un rythme de la Guadeloupe, Big Guine, tout ça. Il me dit « Ah, ça c'est la Guinée ». Et je dis « Non, non ». Et je me suis dit toujours, si je fais un morceau, en tout cas un album, je rendrai hommage un petit peu à la Guinée-Conakry, en tout cas au niveau des rythmes. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Canary. Alors Canary, c'est le grand fétou aux Antilles pour faire à manger. Et Canary Conakry, je trouve que les deux marchent bien, quoi.
Alors, le disque débute donc en Guinée-Conakry, on l'a compris, mais il nous fait parcourir, comme vous le disiez, Edmond, une bonne partie de la planète.
Alors, entre autres, la Guadeloupe, la Martinique et aussi les États-Unis, New York, très précisément, avec ce morceau qui s'appelle « Oh, Happy Jay ». Happy Jay Jay, Happy Jay Jay, come on, Happy Jay, Happy Jay Jay, Happy Jay Jay. Bam 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 bam
dans le morceau Oh Happy G, j'ai demandé à Alan Hoyce qui a scatté, donc qui a fait des voix incroyables et qui donne ce côté un peu voilà, à New York tout est possible, la ville où tout est possible, et ce morceau là c'est vraiment un morceau où tout est possible. On navigue à travers plein de rythmes, plein de, d'univers, et ça m'a plu dans ce moment là, ce morceau là qui s'appelle Oh Happy G.
Et sur ce disque, Jean-Philippe Fanfan a invité ses amis, ceux qui l'ont accompagné si souvent, à l'accompagner donc à leur tour. Et la liste, elle est longue.
Elle est longue, la liste. Il y a un autre très grand batteur, Manu Katché. Il y a une chanteuse, Anne Silla, un trompettiste qui est celui de Lenny Kravitz. Il s'appelle Ludovic Louis. Et pour encore le frère de Jean-Philippe Fanfan, Thierry Fanfan, qui est un bassiste également très connu, qui accompagne beaucoup d'artistes. Alors, toute cette troupe, il leur a donné carte blanche la plupart du temps. Il leur a demandé d'utiliser leur voix comme des instruments.
Le mot d'ordre dans cet album-là, c'est vraiment qu'on joue la voix comme un instrument mélodique, comme un instrument avec des voix puissantes. Il y a Oliza Zamati, qui est ivoirienne, qui chante divinement bien. Il y a Anne Silla aussi qui chante. Il y a Alan Hoyce. Et tous ces chanteurs ont vraiment fait un travail remarquable sur cet album-là. C'est quand même du jazz, donc il y avait une bonne part d'improvisation. Donc j'avais quelques idées. Et puis après, l'idée, c'était vraiment de participer, qu'il y ait un échange.
Le credo de Jean-Philippe Fanfan et Edmond, c'est aussi que les genres musicaux doivent dialoguer entre eux.
Alors, il applique ce credo dans sa carrière, puisque je vous disais qu'il a accompagné beaucoup de stars de la pop, du jazz, de la variété, de la world. Il continue de le faire, mais aussi dans le passé récent, il a travaillé pour des émissions télévisées très célèbres, The Voice, La Nouvelle Star, par exemple. C'est donc un tout autre public que dans le jazz, et c'est une expérience qui lui a beaucoup appris.
Déjà, j'étais sur le petit écran tous les samedis soirs, donc il y avait une espèce de rendez-vous quotidien pendant un bon moment dans l'année. Et surtout, professionnellement, ça m'a donné une espèce de rigueur dans le travail. Et surtout, il faut aller vite, en fait. On a beaucoup de répétitions, mais en même temps, il faut vraiment aller vite à l'essentiel. Et c'est un peu comme une session d'enregistrement qu'on fait régulièrement. Ça m'a permis d'avoir un jeu beaucoup plus affiné, beaucoup plus précis. Et puis, surtout, découvrir des styles que je connaissais un petit peu à la radio. Mais le fait de les jouer, de les approfondir, de les interpréter, c'était complètement différent.
Jean-Philippe Fanfan en concert donc ce soir à Paris au Baiser Salé, hein, dans le quartier du Châtelet, au cœur de la capitale française.
Et ce sera, vous l'avez dit, dans le cadre du festival Les Caribéennes qui a lieu en ce moment. C'est la 14e édition. Jean-Philippe Fanfan sera accompagné de son quintet, composé de Vincent Bidal au piano, Stéphane Castry à la basse, Ludovic Louis à la trompette et Yannick Sogal au saxophone.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Edmond. Merci également à Fanny et Amélie. Dans un instant, le journal sur RFI. Lundi, on part en Guyane sur la trace des esclaves marrons. Avec Geneviève Vils, nous visiterons l'exposition Marronnage que nous présente la Maison de l'Amérique latine à Paris. Et si vous y allez à la Maison de l'Amérique latine, si décidément vous passez par Paris, eh bien en sortant, vous tournez à gauche une fois, deux fois, trois fois et vous tombez sur... Amélie, Fanny, vous tombez sur l'hôtel Matignon. L'hôtel Matignon, 57 rue de Varennes.
Vous verrez Fanny vous faire signe.
Voilà. Où travaille et réside normalement le Premier ministre français. Voilà, allez, à lundi. Merci à tous les trois. Très bon week-end à tous. À lundi donc, et vous m'en direz des nouvelles.